Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
CIBL. Bonjour et bienvenue à L'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Alors aujourd'hui, on est dans le jardinage. Beaucoup, on va parler permaculture, on va parler forêt nourricière, culture écologique aussi. On va terminer l'émission avec une chronique de Maïté Belmire sur un sport d'hiver qui commence à tirer de la patte un petit peu, à traîner de la patte. Donc le ski, quel est l'avenir du ski en ces temps de réchauffement climatique. Et pour débuter, j'ai l'immense bonheur de recevoir Isabelle Béliveau, fondatrice et directrice générale du collectif Écomotion. Alors, comment transformer notre sentiment d'impuissance collectif en sentiment de sérénité en contexte de crise environnementale? On en parle avec elle tout de suite. Bonjour Isabelle.
Salut Maud, ça va bien?
Ça va très bien et toi?
Oui, merci.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, déjà, j'aimerais ça que tu mettes la table en nous expliquant ce qu'est le collectif Écomotion.
Oui, absolument. On est un collectif de professionnels en psychologie environnementale. Donc, moi, personnellement, j'ai plus des études en écologie et en études environnementales. Puis, je me suis associée avec plein de personnes qui sont plus en santé mentale, donc des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Puis on a créé des expériences nourrissantes puis apaisantes pour apaiser le fameux sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir face aux transformations sociales et écologiques qui sont associées à la crise environnementale. Donc par expérience, je parle d'ateliers, je parle de formations, et puis on fait aussi beaucoup d'événements pour rassembler les gens, puis qu'ils puissent connecter ensemble, trouver des solutions, mais surtout retrouver ce sentiment de communauté qu'on a malheureusement perdu beaucoup pendant la pandémie. Donc, c'est vraiment ça notre mission, puis ça fait 3 ans qu'on existe, et on a beaucoup quand même de demandes, donc on voit que c'est vraiment un besoin qui est grandissant, même si on n'en parle pas nécessairement beaucoup autour de soi, là.
Et puis, souvent, quand on va parler, par exemple, d'éco-anxiété, éco-lucidité, les gens évoquent beaucoup Écomotion, justement, comme collectif, parce que vous adressez, entre autres, ce sujet-là de cette anxiété envahissante par rapport à tout ce qui se passe dans l'environnement. Est-ce que vous vous considérez comme des experts en ce qui a trait, justement, à tout ce qui est l'éco-lucidité? On parle des éco-motions, justement, en lien avec l'environnement, l'écologie, les crises environnementales.
Oui. Bien, c'est sûr que les gens connaissent de plus en plus l'éco-anxiété. Par contre, en psychologie environnementale, c'est très large, là. C'est comme l'ensemble des émotions qu'on peut vivre par rapport à qu'est-ce qui se passe dans notre milieu de vie, donc l'environnement. Donc, c'est sûr qu'on peut vivre de l'anxiété, mais on peut aussi vivre de la colère, on peut vivre de la tristesse, on parle de plus en plus de deuil écologique. Mm-hmm. Donc, nous, notre travail, c'est d'accompagner les gens dans la compréhension de ces émotions-là, puis de les utiliser comme outils pour prendre action face à ça. Donc, on parle aussi énormément d'adaptation. Oui. C'est d'ailleurs le sujet de tout ce qu'on fait, là, c'est tout le temps le plan d'adaptation, comment le bâtir, puis comment aider d'autres personnes dans leur propre processus aussi.
Puis je comprends que c'est ça, justement. Il y aura une série là, de 3 ateliers appelés « Embarque dans le canot » qui vont être donnés à la Maison du développement durable les 13, 20 et 27 mars de 18h30 à 20h30. Donc là, on est dans la construction de ce plan d'adaptation, si je comprends bien.
Tout à fait. Donc, c'est 3 rencontres de 2 heures. Finalement, c'est vraiment comme c'est l'ensemble du plan d'adaptation qui a été découpé en 3 parties. Donc, on a 3 grands piliers. À Écomotion, on travaille sur 3 piliers de l'adaptation. Le premier, c'est vraiment comment mieux composer avec les crises sociales et écologiques qu'on traverse présentement. Donc, que vous soyez anxieux pour le futur de vos enfants, que vous soyez triste de ce qui se passe présentement, que vous soyez en colère, que vous ne savez pas comment canaliser cette énergie-là, ben le premier atelier là, du 13 mars, là, ben, de mercredi qui s'en vient, oui, c'est vraiment pour ça, c'est de comprendre les mécanismes derrière les émotions, puis vraiment trouver les outils pour vous aider à canaliser ces émotions-là. Ensuite, le deuxième atelier, donc celui du 20 mars, là, on va plus parler de communauté, de comment développer puis mobiliser sa communauté grâce à des techniques de communication qui sont adaptées. Donc, une des grandes souffrances des personnes qui vont vivre, par exemple, de l'éco-anxiété, c'est qu'ils se sentent incompris par leur entourage. Donc, nous, on travaille vraiment à la capacité, ben, en fait, on développe des compétences de communication qu'on dit adaptées au contexte en ce moment. Donc, on ne va pas communiquer de la même façon qu'on communiquait il y a, par exemple, 20 ans, parce que les gens, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont tannés d'entendre parler de ce sujet-là. C'est un sujet qu'on dit qui est comme brûlé.
C'est vrai,
donc,
hein?
il faut trouver comme une autre manière d'apporter ce sujet-là, notamment avec le storytelling, avec les émotions, avec la vision. Donc, avoir une vision claire du futur, ça aide vraiment les gens à se mobiliser avec vous. Donc, c'est ça qu'on apprend en deuxième partie. Puis la troisième partie, donc le 27 mars, c'est vraiment au niveau de, justement, d'affiner sa vision d'un futur qu'on dit souhaitable. Donc, pas nécessairement un futur qui est parfait puis que tout est réglé, mais quelque chose qui est souhaitable sur un horizon de 5 à 20 ans. Puis ensuite, on essaie de trouver une contribution à la société qui fait sens pour soi. Donc, en fonction de ses capacités du moment, puis en fonction de ses forces, puis de ses passions. Donc là, on va vraiment aller chercher là, toutes finalement les composantes qui vont permettre à la personne de réduire son sentiment d'impuissance, puis d'avoir un plan d'action finalement. C'est aussi c'est surtout un plan d'action, là, je dirais le plan d'adaptation.
Oui.
C'est ce qui permet également de réduire l'éco-anxiété parce que t'sais, si je peux juste faire une mini définition de l'éco-anxiété, c'est un. En fait, il y a deux composantes là, dans la définition. Si on est éco-anxieux, souvent on a une grande conscience des enjeux socio-environnementaux et aussi on a une perception d'inaction autour de soi par rapport à soit les décideurs, la société. Donc, il y a ce sentiment de perte de contrôle alors qu'on voit qu'il y a urgence d'agir. Donc, plus on donne la capacité aux gens d'agir sur cette situation-là, plus leur anxiété va se réguler. Donc, c'est un peu ça l'idée.
Oui.
C'est pas parfait, mais c'est quand même un bon point de départ. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont passé à travers ce processus-là, puis ça les a beaucoup aidés. Donc, voilà.
Oui, bien, j'imagine bien, parce que c'est ça, des fois, en tant qu'individu, souvent, en fait, c'est ce que j'entends autour de moi. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que moi, je peux faire?
Ouais.
Et là, tu le disais, entre autres, dans le dernier atelier, mais j'imagine que même en suivant un ou deux ateliers, on n'est pas obligé de les suivre les trois. Mais, tu sais, notamment dans le troisième, dans le plan d'action ou le plan d'adaptation, c'est chacun à sa mesure et à sa capacité. Je ne sais pas comment ça se traduit concrètement dans l'atelier, cette exploration-là de définir, OK, ben moi, qu'est-ce que je me sens capable de faire ou qu'est-ce que je sens qui va me rassurer comme plan pour le mm-hmm. futur?
Exact. Bien, c'est ça. C'est parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Puis aussi, c'est de réaliser que quand on parle de capacité, là, c'est de réaliser qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il vaut mieux se concentrer sur nos forces puis sur quoi on a de l'impact en ce moment. Puis, quand on fait ça en groupe, ben c'est super rassurant parce qu'on voit qu'il y a plein de monde qui s'occupe de plein de parties, en guillemets, de la transition.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme, ah, OK, ben là, je suis pas obligée de tout faire, finalement. Donc, ce sentiment-là aussi de mettre énormément de poids sur ses épaules, c'est typique des personnes qui vivent beaucoup d'éco-anxiété. Donc, d'enlever ça, ça leur permet d'être en action au lieu de paralyser.
Oui, effectivement, le poids peut vraiment sembler lourd sur nos épaules quand on voit tout ce qu'il y a à faire. Puis, tu l'as bien nommé tantôt, je veux dire, l'anxiété, cette éco-anxiété provient d'un sentiment d'inaction collective ou d'inaction
exact.
De la part de nos décideurs. S'ils passaient à l'action ou si on sentait qu'il y avait réellement des avancées de ce côté-là, on serait vraiment moins anxieux et plus enclin à travailler en collectivité, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Des ateliers comme ça sont essentiels pour ces conversations-là, puis se dire, bon, bien, si nos décideurs ne vont pas dans le sens où nous, on aimerait qu'ils aillent pour la protection de notre environnement, pour la protection des générations futures, bon, mais nous, on va s'asseoir ensemble, puis on va en discuter, puis on va voir qu'il y a des possibilités, chacun à sa manière. Et justement, ça m'amène à la question, à qui s'adressent ces ateliers? Est-ce qu'il y a un public cible en particulier? Tout le monde est bienvenu, je l'imagine bien.
Oui.
Mais à qui ça s'adresse, selon toi?
Oui. Ben généralement, tu sais, les gens qui vont venir à nos ateliers, c'est souvent des personnes qui travaillent, bon, directement, soit en environnement ou en santé, même c'est santé globale là, de plus en plus, également en éducation, donc des personnes qui vont travailler soit directement dans les écoles, dans les milieux communautaires ou jeunesse, qui désirent renforcer leurs compétences pour soutenir d'autres personnes. Donc, ils vont venir souvent chercher des outils pour eux-mêmes parce que c'est des personnes qui vont avoir aussi des préoccupations là, pour les enjeux, mais c'est souvent pour aller chercher des outils pour soutenir les autres. Aussi, on a beaucoup d'étudiants, donc des personnes qui, des jeunes finalement, qui vont être dans des réflexions sur leur avenir puis leur rôle dans la société face aux enjeux des changements climatiques. On a aussi beaucoup de parents qui souhaitent accompagner leurs enfants qui vivent des éco-émotions, qui comprennent pas nécessairement. Donc là, il y a comme des enjeux internationaux, mais intergénérationnels, qui sont super intéressants. Puis quand il y a justement des parents puis des étudiants en même temps dans les groupes, c'est super riche les échanges. Puis on arrive à vraiment faire des belles connexions. Puis sinon, ben toute personne qui est comme un peu en quête de sens, là, qui se remet beaucoup en question, qui remet en question son futur, les projets. Puis qui souhaitent en fait définir une contribution satisfaisante pour eux. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ont un certain âge puis changent de métier parce que leur métier fait plus de sens pour eux, considérant les enjeux. Donc, si c'est votre cas là, que vous posez vraiment beaucoup de questions, ben un atelier d'écomotion, ça va vous aider parce qu'on met beaucoup les gens en réflexion, en exercice. Il y a beaucoup de discussions. Donc, c'est pas juste l'intervenante qui parle pendant 2 heures, là, au contraire, c'est très dynamique comme atelier. Ouais.
Et à quoi on peut s'attendre à repartir au terme de ces rencontres-là? Je sais que c'est peut-être pas, il n'y a pas comme une liste concrète et définie, mais de ton expérience, des ateliers qui ont déjà été donnés, avec quoi les gens repartent?
Ben, je pense qu'ils repartent avec un sentiment de sérénité, là, tu l'as nommé plus tôt. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner des pistes concrètes sur quoi travailler. Tu sais, par exemple, juste on va remanier. Il y a un exercice qui s'appelle l'horaire, puis on remanie votre horaire pour avoir plus de capacité à faire face à ce qui se passe. Donc, on regarde vraiment là, c'est quoi les activités que vous faites dans une semaine, puis on regarde est-ce que vous avez assez de petites activités ou de petits moments qui vous aident à régénérer votre énergie. Parce que si on n'a pas d'énergie, ben comment qu'on peut espérer que les gens s'engagent dans quelque chose qui est plus grand qu'eux? Il y a vraiment quelque chose à retravailler à ce niveau-là. Donc ça, c'est une des choses assez concrète avec laquelle on peut repartir. Sinon, on parle beaucoup du réseau de soutien. Donc, on regarde vraiment c'est qui vous entoure, c'est quoi les ressources qui vous apportent, puis on regarde si c'est suffisant puis assez diversifié. Si ça ne l'est pas, bien, on vous donne plein de trucs pour renforcer ça parce qu'on sait qu'on a besoin d'un réseau de soutien fort quand on traverse une période de crise comme on vit présentement.
Oui.
Puis sinon, ben comme on a parlé beaucoup, ben vous allez repartir avec un plan d'action concret là, sur c'est quoi vos actions sur 5 ou 10 ans, c'est quoi sur quoi vous allez travailler en priorité, qui va vous rassurer puis qui va peut-être avoir même un effet multiplicateur autour de vous là, dans votre communauté. Fait, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, c'est vraiment super clair. Puis, tu sais, ça donne envie d'y aller. Puis, j'espère que les gens qui écoutent, qui n'avaient peut-être pas fait leur inscription encore, vont aller le faire sur le site de la Maison du développement durable au www.lamdd.org. Donc, je répète, les ateliers sont les 13, 20 et 27 mars de 18h30 à 20h30. Donc, avec toi, entre autres, Isabelle, j'imagine?
Ça va être avec Amélie, ma collègue qui est étudiante en psychoéducation. Ben, en fait, elle a terminé, mais elle est très, très compétente. Puis, il va y avoir aussi le 20 mars, là, donc celui pour la communication, on va avoir Christelle Papineau,
que
tu connais sûrement, qui est une spécialiste de la communication environnementale. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant avec les deux. Ouais.
Ah, absolument. Donc, je recommande chaudement ces ateliers, même si je ne les ai pas encore suivis. Donc, au plaisir d'y plonger moi-même. Merci beaucoup, Isabelle Béliveau, d'être venue nous en parler ce matin.
Ça fait grand plaisir. Merci à toi.
Une excellente journée.
Bye-bye.
Et maintenant, on se retrouve en entrevue avec l'autrice Christelle Guibert, qui vient tout juste de sortir son livre « De la cour au jardin, transformer son terrain en aménagement écologique et comestible », paru aux éditions Éco-Société, avec les illustrations d'Orceline. Donc, il est maintenant en librairie. Et oui, avec les températures douces et printanières qu'on a eues récemment, là, ça s'est refroidi un petit peu, mais on aurait eu envie pratiquement de mettre les mains dans la terre et de commencer les travaux sur notre terrain. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes ingénieure de formation, passionnée de jardinage. Vous travaillez présentement comme gestionnaire en environnement dans la région de l'Outaouais. Il s'agit de votre premier livre avec, donc, comme je le disais tout à l'heure, De la cour au jardin. Pourquoi avoir choisi de parler des aménagements écologiques et comestibles?
Oui, mais je suis partie de deux constats que tout le monde peut faire facilement. Le premier, c'est qu'il y a une certaine urgence à s'adapter au changement climatique, hein, comme tout le monde le sait. Puis en plus, on a un déclin rapide de la biodiversité. Et le deuxième constat, c'est que si on ouvre les yeux autour de nous, on constate que la majorité des propriétés sont composées de gazon, malheureusement. Donc ça fait du sens pour moi de prendre cet espace clairement sous-utilisé qu'est la pelouse pour le transformer en un aménagement qui va à la fois bénéficier à la faune et à la flore, et produire de la nourriture pendant des années de manière presque autonome. C'est pour ça que je me suis concentrée sur les aménagements comestibles. Ça va être composé de fruitiers, de plantes médicinales ou aromatiques, de vivaces, à l'inverse d'un potager classique de légumes annuels qui, lui, doit être recommencé à chaque printemps et qui nécessite beaucoup plus d'entretien à long terme. Donc, quand on crée un tel aménagement, que ce soit sur un petit terrain de ville ou en banlieue, on contribue aussi à l'effort collectif pour s'adapter au changement climatique. En effet, hein, vous savez, l'ombre générée par les arbres fruitiers ou n'importe quel arbre, c'est pas mal appréciable dans des quartiers qui sont souvent considérés comme des îlots de chaleur.
Oui.
Donc, l'exemple que j'aime bien donner et qui résume bien la finalité d'un tel projet pour les lecteurs qui se lancent, imaginez-vous, pendant une chaude journée d'été, vous allez dans votre jardin, vous allez récolter quelques feuilles de menthe, une poignée de framboises, vous les ajoutez dans votre boisson avant de vous installer confortablement, à l'ombre pour observer les fleurs, les oiseaux, les papillons et tous les insectes bénéfiques qui auront élu domicile chez vous grâce à l'aménagement que vous aurez fait. Donc le concept, c'est de céder de la nature qui va revenir sur votre terrain et qui va aussi vous aider à entretenir pour vous votre aménagement de manière écologique. Et en prime, on peut récolter des fruits du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Donc le titre de mon livre est « De la cour au jardin » parce que je souhaite que les Québécois fassent cette transition d'une simple cour en un oasis de verdure, un jardin qui intègre des plantes comestibles durables.
Mais en tout cas, avec cette magnifique description, ça donne envie, effectivement, d'aller cueillir à même le jardin et se rafraîchir à l'ombre d'un arbre qu'on aura planté. Ouais. Vous avez toujours été une passionnée comme ça du jardinage. Avez-vous, dès l'enfance, plongé les mains dans la terre en famille?
Oui, c'est ça. Ma famille, toute ma famille a toujours été les mains dans la terre. Puis mes grands-parents étaient fermiers des deux côtés.
Donc une prédisposition quand même assez importante. Dans l'introduction de votre livre, vous faites mention qu'il y a eu un certain retour à la terre en temps de pandémie. On l'a constaté notamment avec les réseaux sociaux et les publications. On a reconnecté avec l'importance qu'avait pour nous notre environnement. Est-ce que vous avez un constat sur ce qui reste de cette prise de conscience suite à la pandémie?
On le voit dans les statistiques, hein. Il y a plus d'un Québécois sur deux qui entretient une forme de potager déjà. Et puis, depuis plusieurs années, on voit des mouvements qui grossissent. Les gens se conscientisent de plus en plus à l'importance de la biodiversité. On peut penser notamment au défi pissenlit qu'on a ici, ou le No Mow May, donc le mois sans tondeuse qu'on voit plus en Europe. En parallèle, on a aussi tous les mouvements citoyens pour inciter les gens à planter des plates-bandes d'espèces indigènes pour aider nos pollinisateurs. Et même dans les centres jardins, moi, je vois à chaque année des nouvelles variétés de fruitiers qu'on ne pouvait pas se procurer avant. Il fallait aller dans des pépinières spécialisées. Donc là, on en voit de plus en plus. Comme vous l'avez dit, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux, ils ont de plus en plus d'abonnés avec des nouveaux jardiniers qui sont toujours plus nombreux. Donc ça démontre vraiment que l'intérêt est toujours là et est toujours grandissant pour les Québécois, pour le jardinage, mais aussi pour essayer d'avoir une certaine autonomie alimentaire et puis d'aider la biodiversité comme on peut. Et en plus, dans ce contexte d'inflation des dernières années, ça fait du sens pour beaucoup et c'est parfois une nécessité pour certains de produire ses propres fruits et légumes.
Oui, et donc ça ne s'est pas évanoui dans l'espace comme la confection du pain là, qui a perdu en popularité.
Non.
Et ça sera peut-être plus utile justement pour notre environnement, notre collectivité. Et dans ce que vous avez pu entendre, c'est quoi les plus grands mythes sur les difficultés qu'on pourrait avoir à entretenir un jardin? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent, par exemple, quand vous offrez vos conseils autour de vous, quand les gens sont réfractaires au jardin?
C'est souvent deux arguments qui reviennent, c'est pas forcément des mythes, mais plus des arguments. Le premier, ça va être ça demande trop d'entretien, trop de temps, et le deuxième, ça va être je sais pas comment m'y prendre. Donc en gros, quand on parle de que ça prend trop d'entretien ou trop de temps, ben en planifiant correctement dès le début les variétés qui vont être les plus rustiques et les plus résistantes aux maladies, en choisissant des plantes qui sont adaptées à votre sol, alors on va s'éviter beaucoup de troubles en termes d'entretien, puis en termes de temps à entretenir. Un autre exemple, c'est pour éviter de désherber, mais il est impératif de mettre du taillis, qu'on peut se procurer gratuitement, ou bien de planter une espèce couvre-sol. On peut penser encore aux espèces comestibles, le fraisier, c'est un couvre-sol, donc vous pouvez vous en servir pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc j'ai parsemé le livre de conseils et de trucs et astuces pour réduire l'entretien, puis aussi réduire le budget d'un tel projet. Le deuxième argument que je parlais, c'est je ne sais pas comment m'y prendre, donc c'est un peu le manque de connaissances. Comme on le sait, il y a énormément de littérature sur le sujet du jardinage. Donc, dans mon guide pratique, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regrouper toutes les informations utiles et de les vulgariser en donnant des conseils pertinents pour que le lecteur sache ce qu'il est utile de faire ou de ne pas faire dans le contexte d'un aménagement comestible.
Oui, parce qu'effectivement, avec la quantité de littérature sur le sujet, comme vous le dites, on peut facilement s'y perdre ou que ce soit peut-être trop pointu pour notre envie d'aller se plonger dans cette information-là, donc d'avoir une petite bible, comme votre livre « De la cour au jardin », qui regroupe l'essentiel des informations utiles et pratiques pour quelqu'un qui veut faire ça en dilettante, si on veut, là, ou même s'il a donné de manière plus intensive. Je pense que ça va justement démystifier bien des aspects et faciliter cet accès à l'information qui nous manque souvent juste pour passer à l'action. Et moi, personnellement, je peux tout à fait me reconnaître dans le jardinier paresseux. Là, je mets des guillemets dans les airs en studio, en ce sens que ma disponibilité pour mon jardin et l'entretien de mon jardin demeure extrêmement variable. Sur quoi on devrait miser en premier lieu, justement, pour réduire ce temps dans le jardin, ce temps d'entretien au jardin?
Sur des plantes qui poussent toutes seules et qui n'ont quasiment pas besoin d'être taillées. Donc, on peut penser, je vais y aller de la plus petite plante à la plus grosse, là. On peut penser à des annuelles, des fleurs annuelles, par exemple, qui se ressèment d'année en année, comme la verveine. La verveine, elle peut servir dans nos tisanes, et puis ça fait des très belles petites fleurs violettes. Toutes les vivaces comestibles aussi sont des bons choix puisqu'elles vont repartir toutes seules à chaque printemps. Pour les arbustes fruitiers, on pourrait choisir des arbustes qui sont très rustiques. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés pendant l'hiver et au printemps quand ils fleurissent parce que les fleurs résistent. Je pense aux camérisiers, leurs fleurs résistent jusqu'à moins 7 degrés. Donc, les gels printaniers, eux, pas de problème.
Non, c'est ça.
Et puis, ils vont produire des fruits fidèlement d'année en année. Il faudra simplement, l'entretien qu'il va falloir faire, c'est couper les branches mortes au printemps. Généralement, c'est pour toutes les plantes comme ça, là. Et puis les plus vieilles branches pour les rajeunir une fois par an. Donc c'est vraiment quelque chose qui est simple. Au niveau des arbres fruitiers, ça fait souvent peur parce qu'on parle on parle de la taille, de la formation, etc. En tant que jardinier paresseux, je recommanderais plutôt des arbres qui ne nécessitent même pas d'être taillés pour produire correctement. On peut s'orienter sur les pruniers, plus spécifiquement sur des variétés qui seraient résistantes aux nodules noirs. Le nodule noir, c'est la maladie pour cette famille d'arbres qui est la plus drastique.
Okay.
Ça peut tuer l'arbre. Donc, on peut choisir des variétés de pruniers hybrides ou asiatiques. Donc, vous voyez, il y a quand même un choix qu'on peut faire dès le début pour s'éviter de l'entretien ou des maux de tête parce que notre arbre est malade, etc.
Oui. Très bien. Bien, en tout cas, ça donne de bons conseils et ça ouvre la porte à la possibilité d'avoir un jardin plus garni ou qui sera autre chose que de la tour au bout du gazon, là, comme on l'appelle. Et ça serait quoi vos meilleurs conseils pour convaincre quelqu'un, justement, de troquer la tour pour un espace qui mise sur l'augmentation de la biodiversité?
Bah, déjà, en troquant la tourbe pour un espace qui mise sur l'augmentation de la biodiversité, ça va permettre d'économiser dans le budget d'épicerie si vous tentez un aménagement comestible. Parce qu'avoir des fruits frais ou qu'on conserve pour l'hiver au lieu d'acheter des fruits qui coûtent extrêmement cher hors saison ou qui vont même pas être savoureux en pleine saison parce qu'il y a des conditions de transport et de conservation qui font que les fruits doivent être récoltés avant d'être mûrs. Je parle notamment des prunes dans mon livre. Moi, j'ai vécu avec des prunes toute mon enfance qu'on ramassait directement à l'arbre. Et après, j'ai goûté les prunes de l'épicerie, j'ai fait « non, il y a une erreur là, ça marche pas ». Il y a aussi aménager une partie de son terrain en retirant du gazon au profit de plantes variées. Ça va vous permettre de profiter de votre terrain d'une autre manière. Donc, je m'explique, ça devient un terrain qu'on peut maintenant contempler. On peut se relaxer à l'ombre, on peut éduquer les enfants aussi sur le fonctionnement de la nature en allant à la découverte des insectes et en observant les oiseaux. Ça va aussi permettre de créer des liens sociaux avec vos voisins et la communauté parce que vous pouvez partager à la fois vos récoltes mais aussi vos connaissances. Et puis, pour ceux qui sont les aficionados de la pelouse, ceux qui veulent garder de la pelouse, c'est correct. Il y a quand même des alternatives écologiques qui sont bénéfiques et qui vous feront en même temps gagner du temps parce qu'il y a moins besoin d'entretien, d'arrosage, de pompe. Vous pouvez par exemple ajouter du trèfle dans le gazon, donc il restera vert même pendant les périodes de sécheresse, contrairement à la pelouse. Et vous pouvez aussi planter du thym serpolé. Donc le thym, hein, je ne sais pas si vous avez déjà marché dans du thym qui était dans la pelouse, mais ça a vraiment une odeur
c'est
magique.
C'est très agréable.
On croirait dans, on croirait dans le sud. Donc ça fait des magnifiques tapis de fleurs. Ça attire énormément de pollinisateurs. Puis en bonus, vous avez juste à aller dans votre jardin, enfin sur votre pelouse, couper des branches de thym dans votre gazon pour vous en servir en cuisine.
En plus, que davantage. Ouais. Et là, on parle justement de cueillette, de profiter de ce magnifique jardin. Combien de temps ça peut prendre pour avoir un jardin qui est prolifique ou en tout cas qui est assez garni pour s'asseoir et le contempler pleinement?
Donc, c'est sûr qu'il faut apprendre la patience, mais dès la première année, donc ça va être l'année d'implantation hein, de tous les végétaux, c'est quand même possible de cultiver des légumes annuels pour combler les espaces en attendant que les plantes poussent. Et en plus de ça, vous pouvez aussi récolter des premières fraises, certaines herbes aromatiques qui vont pousser dès la première année. La deuxième année, vous aurez de bonnes chances pour commencer à avoir des récoltes de tous vos petits fruits et des usages comestibles. Je pense à la bisèche, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plante qui fait plus de 2 mètres de haut, puis ça a un goût de céleri, hein, ça peut remplacer le céleri. Il y a aussi des oignons égyptiens, la ciboulette, etc. Au bout de 3-4 ans, on va avoir le premier fruit de la famille des arbres à noix, les noisettes qu'on peut récolter, et puis quelques fruits provenant d'arbres fruitiers. Mais c'est surtout après 5-6 ans que vous allez avoir des fruits à ne plus savoir qu'en faire. Hein. Vous aurez les prunes, les cerises, les pommes, les poires, etc. Là. Donc, il va y avoir après tout ce qui est apprentissage pour conserver les fruits et les légumes. Et ce que je veux dire, c'est que de ce côté patience, il y a ce côté d'observer pendant des années l'évolution de votre jardin et de voir la nature revenir progressivement, mais ça donne de la satisfaction. C'est aussi un côté ressourçant et méditatif qui n'est pas négligeable.
Oui, absolument. Puis dans un monde qui va si vite et on est toujours dans l'accélération puis de ce qui va arriver dans l'instantané, de revenir à cette patience-là, d'observer la nature puis de se dire, bien, c'est pas grave, tu sais, c'est un projet sur du long terme dans lequel j'embarque présentement. Je pense que ça peut tous nous faire du bien de ralentir un petit peu dans un jardin. Alors, Christelle Guibert, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre tout premier livre, De la cour au jardin, transformer son terrain en aménagement écologique et comestible, disponible dans toutes les librairies maintenant.
Merci, Maud.
Merci, une excellente journée à vous.
Bonne journée.
Bonne journée. Alors, on s'en va vers une courte pause maintenant. Restez tout près. Tout de suite après, nous entretenons avec Wen Roland, qui est un expert en permaculture. À tout de suite.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éthique à Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
CIBL.
Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Et maintenant, on s'entretient avec Wen Roland. Donc, bonjour Wen.
Bonjour.
Bienvenue à l'effet durable.
Merci, c'est super d'être avec vous.
Ben oui, on est super content de te recevoir. Donc, toi, tu offres des services pour faire du design écologique et tu es considéré comme une sommité en permaculture. Mais en tout cas, c'est comme ça dont j'entends parler de toi depuis un certain temps. J'avais très hâte de pouvoir enfin discuter de permaculture avec toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux définir avec nous le design écologique et la permaculture?
Certainement. Il faut noter que sommité, ça veut dire qu'on est au sommet et je ne suis pas là. J'accepte qu'on me nomme comme ça. Mais je veux juste dire que ce que ça nécessite, la permaculture, c'est beaucoup d'humilité, justement, parce que le travail qu'on fait avec la permaculture, c'est d'imaginer le futur, dans le fond. On se projette dans le futur, on regarde comment le futur pourrait être et on se base sur ce que la nature nous enseigne. Donc, le design écologique, c'est ce qu'on fait en utilisant la permaculture. Puis en tant que designer écologique, moi, j'aide les gens, les entreprises, les villes, les groupes communautaires à réaliser leurs projets écologiques à l'aide de la permaculture. Donc, c'est mon coffre à outils, c'est mon approche, ma capacité de réfléchir au projet est basée sur les principes que la permaculture propose. Et puis, si on a des petites définitions courtes là, de la permaculture, on pourrait dire que c'est de l'écologie appliquée, par exemple.
OK.
Donc, on applique toutes les connaissances qu'on a acquises depuis des dizaines et des dizaines d'années, puis des centaines et des centaines d'années avant ça dans notre recherche à comprendre notre nature. Parce que souvent, on se voit séparer la nature et c'est un petit peu l'erreur. On se voit comme une partie externe. La nature est là, moi, je suis là, je m'occupe de la nature ou je copie la nature, mais en fait, il faut se poser la question, quel est mon rôle en tant que mammifère dans la nature à laquelle je fais partie? Et la permaculture, elle s'intéresse beaucoup à ça. Elle s'intéresse beaucoup à comment on peut jouer un rôle plus positif, comment on peut avoir un impact qui va dans le sens de la nature, donc qui respecte les principes, la manière de fonctionner de la nature, tout en étant conscient que dans le monde où est-ce qu'on est présentement, il y a beaucoup de processus qui sont en place, beaucoup de problématiques qui sont culturelles et sociétales, qu'on a peu d'impact immédiat, mais faut se rappeler que les solutions existent et que la plupart du temps, c'est pas un manque de solutions qui fait qu'il y a des problèmes, c'est un manque de volonté souvent au niveau des gouvernements, au niveau des municipalités, au niveau des décideurs. Et donc, on est là aussi pour influencer ces décideurs à changer les choses de différentes manières.
Oui, donc ça va bien au-delà de notre jardin, la permaculture. Ça va avec une façon de penser, une manière d'être aussi, puis d'investir cet espace-là qui est aussi le nôtre. Et comme tu l'as si bien dit, on se place souvent à l'extérieur de la nature. Puis là, de se replacer au sein de cet écosystème, ça change la perspective.
Tout à fait. La perspective, c'est extrêmement important. C'est un des aspects qu'on essaie de changer à l'aide de la permaculture, c'est d'aider les gens à voir le monde différemment. Moi, quand j'invite mes élèves, les premiers cours, c'est la première chose que je leur dis. Je vais changer votre manière de voir le monde.
C'est un bel énoncé, en tout cas. Et quand on parle de forêt nourricière, est-ce que c'est le même principe?
Dans le fond, la forêt nourricière est fondée sur l'approche de la permaculture et on applique les principes de la permaculture. Et comme votre intervenante précédente le mentionnait, au niveau de l'aménagement comestible, ça va dans le même sens, la forêt nourricière. Sauf qu'au lieu d'être juste comestible, au lieu d'être nommé comme étant juste comestible, c'est vraiment dans le but d'être nourricier dans l'ensemble des terres qui nous intéressent en permaculture. Et quand j'ai créé le terme forêt nourricière, quand j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, il faudrait trouver un nom à ce concept-là qui existe un peu partout dans le monde. Il y a plein d'autres termes qui existent, food forest, forêt jardin et autres. Mais moi, quand j'ai voulu le nommer pour donner mes formations, puis comme mettre un peu de moi dans tout ça, j'ai pensé comment ça peut être nommé pour inspirer les gens, pour leur faire comprendre qu'on veut que ce soit plus que juste la nourriture pour nous. On veut que ce soit un espace qui est nourricier pour le sol. On veut nourrir notre sol. On veut nourrir les insectes, les oiseaux. On veut nourrir les gens, bien sûr, mais on veut aussi nourrir par la beauté. On veut nourrir notre âme, notre spiritualité, peu importe. On veut nourrir le plus d'aspects de notre existence pour nous donner de l'espoir, nous donner des solutions aussi. Parce que dans un jardin, plus on passe de temps dans la nature et dans des jardins qui sont pensés comme la nature, comme la forêt nourricière, plus on s'aperçoit que les solutions, ils sont là. Il y a beaucoup de solutions qu'on retrouve dans la nature qu'on pourrait définitivement appliquer dans nos sociétés, autant au niveau de l'habitation des entreprises, de la gestion qu'on fait de nos ressources, des villes, de la manière dont on aménage nos villes. S'il y a bien quelque chose qui représente peut-être mal l'humanité, c'est les villes. Ou est-ce que si on regarde nos villes, on pourrait s'imaginer, c'est qui les dominants dans la ville, c'est les voitures. C'est pas les humains, c'est les voitures qui prennent plus de place que tout le monde.
Oui, effectivement. Donc, de le voir comme ça, ou en tout cas de se placer en observateur sur ce qu'on a bâti versus qu'est-ce qui est là naturellement, on se retrouve confronté à... C'est ça, il y a comme un conflit de réalité, là. C'est pas tout à fait ça. Mm-hmm. Et quand on parle forêt nourricière, déjà, je trouve que l'appellation est hyper poétique. Ça peut sembler même idyllique ou pratiquement loin de nous, encore une fois, comme manière de voir la culture d'un espace. De quelle manière est-ce qu'on peut voir ce concept de forêt nourricière s'ancrer dans l'urbanité, là, quand on pense aux grandes villes, au béton, ou bien même sur des territoires qui sont exploités pour l'agriculture? À quoi ça peut ressembler?
Mais la forêt nourricière, c'est une approche qui est vraiment flexible. C'est un type d'aménagement. Moi, j'appelle ça de l'aménagement comestible et utile. Donc, pour faire une petite différence entre l'aménagement comestible, moi, j'ajoute que c'est utile. Ça sert, ça joue un rôle, ça aide les insectes pollinisateurs, ça, comme je mentionnais tantôt, ça crée du sol, ça permet de se soigner des plantes médicinales, ça permet de faire un paquet de services aussi écologiques. Donc, c'est très flexible et on cherche pas à reproduire la forêt. Mm-hmm. C'est ça peut-être l'erreur, peut-être dans le nom... Bon, c'est le nom que j'ai donné, c'est le nom qui m'est venu, puis ça me parle. Mais en fond, on veut pas reproduire une forêt. Mm-hmm. On veut s'inspirer du modèle de la forêt, des différentes strates, arbres, arbustes, herbacées. Donc, trois strates principales qui nous viennent en tête. Et on veut aussi se brancher sur ce qui fait qu'une forêt, c'est autonome. Hein? Quels sont les cycles? Quels sont les processus dans une forêt qui fait que on n'a pas besoin de la fertiliser, la forêt. Oui. Puis elle produit énormément de biomasse. Elle produit peut-être un petit peu moins de ce que nous, on mange comparé à un verger de pommes où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pommes. Mm. Mais dans nos forêts nourricières, on a peut-être moins d'un seul élément. On a moins de pommiers, par exemple, mais on va avoir des pommes, des prunes, des poires, des cassis, des groseilles, des gadelles, des framboises, etc., etc., en plus des plantes herbacées, des plantes médicinales, etc. Donc, on va avoir une très grande diversité, une diversité qui est là avec une réflexion qui est apportée par la permaculture, parce qu'on pourrait mettre n'importe quelle plante ensemble, mais ça serait pas une forêt nourricière. Il faut qu'il y ait une réflexion, il faut que ça soit pensé dans l'esprit d'un écosystème. On regarde la nature comme modèle, et puis on veut créer un écosystème. Évidemment, c'est pas instantané, ça demande du temps. Pendant les 2-3 premières années, là, mon mantra, c'est il faut désherber comme dans un potager pendant les 2-3 premières années. Okay. Faut garder ça en tête. Et ça s'applique à tous les jardins que les humains créent. Mm-hmm. Il n'y a aucun jardin qui, instantanément, va être parfait. Jardinier paresseux, c'est bien beau comme terme, mais...
je le nommais justement tout à l'heure avec Christelle, que moi, je me rentrais dans cette ligue-là parce que je manque de temps pour entretenir mon jardin pendant la pandémie. C'était fabuleux, c'était fantastique. J'avais toute la vie devant moi. Mais après ça, je me suis frappée à cette réalité-là, justement, de la demande d'entretien, finalement, puis que mon jardin n'était peut-être pas, justement, bâti en écosystème autonome, là, t'sais, ou suffisamment autonome pour ma disponibilité en temps. Donc, je suis quand même contente de t'entendre parler du jardinier paresseux. Il faut quand même un minimum d'investissement, puis j'en suis consciente.
Tout à fait.
Et là, présentement, si on parle de projets peut-être à plus grande échelle ou qui ont été assumés par des arrondissements, municipalités, est-ce qu'on a une estimation du nombre de ces projets-là qui se basent sur le modèle de permaculture, forêt nourricière, aménagement écologique au Québec?
Oui. Si on s'intéresse à tous les projets, disons les projets citoyens, les projets individuels, privés ou les entreprises, bon, évidemment, il y en a des milliers et des milliers parce que si je considère juste le nombre de personnes que j'ai formées au Québec, j'ai formé au moins 5-6 000 personnes minimum. Donc, on peut dire que tous ces gens-là portent en eux la permaculture. Oui. Si on parle de projets concrets de forêts nourricières, par exemple, ben moi, j'en ai répertorié une quarantaine qui sont accessibles au public.
Okay.
Et puis, je sais que j'en ai oublié. Je sais qu'il y en a un paquet d'autres qui peut-être ne rentrent pas dans le contexte de forêt nourricière parce qu'il y a un autre thème qui a été appliqué sur l'aménagement qu'ils ont fait. Peut-être que c'est plus potager, etc., mais qui inclut des fruitiers, qui inclut des arbres. Donc, les projets, là, il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Il faut juste chercher un petit peu. Puis des fois, ben les gens n'utilisent pas nécessairement le terme permaculture ou forêt nourricière. C'est tout à fait correct. Ultimement, les termes sont là pour nous permettre de comprendre un concept. Et si le concept est appliqué avec d'autres termes, moi, ça me va tout à fait, tant que c'est mis en place. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Faut que les gens pensent à créer des environnements qui sont et beaux, parce qu'on aime ça que ça soit beau, on veut que ça nourrisse l'âme, comme je disais tantôt, on veut qu'il y ait des belles fleurs, mais pourquoi pas des fleurs comestibles? pourquoi pas ajouter cet aspect-là, des plantes médicinales et tout ça? Donc, les projets, il y en a vraiment beaucoup, il faut juste chercher un petit peu des fois.
Bon, c'est ça, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir davantage qui pourraient se réaliser? Et qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il y en aurait plus, par exemple, assumé par les villes, assumé par les municipalités, pour inciter les gens après ça à peut-être répliquer ce modèle-là à la maison, ou c'est peut-être le chemin inverse qu'il faut faire, là, finalement? Commencer par soi pour ensuite amener ça à la ville?
Je pense que ça va dans les deux sens, en fait. Quand on regarde ça, il y a beaucoup de projets, il pourrait en avoir beaucoup plus. On s'entend qu'il n'y en aura jamais assez, tant que moi, il en faut toujours plus. Et c'est pour ça que je fais de la formation dans le domaine. Je pense que ça passe par là. Je pense qu'il faut que les gens sachent que ça existe, vraiment, que ces possibilités-là existent. Je pense que d'un point de vue, l'imagination, c'est le chemin royal vers la réalisation de nos projets. Il faut être capable de les imaginer. Si les gens ne savent pas que c'est possible, si les gens ne savent pas que peut le faire, les différents assemblages qui existent, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'ils vont réaliser. Ils vont aller vers ce qu'ils connaissent, le potager, les annuels, les plantes annuelles. Bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres écrits sur le sujet. Et donc, je pense que l'éducation, évidemment, à la permaculture, mais aussi à la nature, voir comment la nature fonctionne, des plus jeunes aux primaires qui devraient, tant qu'à moi, avoir beaucoup plus de notions sur ces sujets-là. Moi, mon fils, il a 8 ans, Aiden, et puis je lui en parle constamment, puis je vois que c'est facile pour lui de comprendre ça.
Okay.
Pourtant, pour les adultes, des fois, c'est plus difficile parce qu'on a été comme un peu manipulé par la culture de consommation et tout ça. Je vois que pour les enfants, ce serait extraordinaire, mais aussi pour les personnes plus âgées. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mes formations qui sont des personnes plus âgées en pré-retraite ou en retraite, qui ont un projet, et ils ont entendu toute leur vie pour faire ça. Là, ils entendent parler de ces sujets-là, ils sont comme « wow! »
Enfin!
Ça, c'est pour vrai. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de projets aussi qui viennent des villes qui sont intéressés à mettre en place ça pour leurs citoyens. Cependant, la structure des villes est parfois un peu complexe. Il y a beaucoup de silos, des différents départements. Et ça, c'est un des challenges. Il faut vraiment un peu, disons, travailler la structure de gestion pour que ça s'adapte bien à un projet en permaculture qui, lui, s'intéresse très largement à son applicabilité. On veut que ça serve aux citoyens, aux gens de la ville. On veut qu'il y ait des activités, inviter des garderies, des écoles et tout ça.
Absolument. Bien, merci beaucoup, Wen Roland, d'être venu nous parler permaculture, forêt nourricière, aménagement écologique. Et d'ailleurs, on peut retrouver toutes les informations sur les services offerts par toi et ton équipe sur le site designécologique.ca. Alors, j'invite évidemment tout le monde à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment intéressant, tout le contenu qui se trouve sur ton site. Et puis, on espère voir davantage de ces aménagements et forêts nourricières prendre place au sein de nos sociétés et aussi individuellement dans nos jardins.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Une excellente journée à toi.
Bonne journée.
Et maintenant, on termine avec la chronique de Maïté Bellemire sur un sport d'hiver qui est très populaire, mais qui commence à fondre comme neige au soleil, le ski.
Exactement, une très belle intro. Merci, Maïté. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
On va partir tout de suite avec un extrait sonore. Normalement, il arrive.
Normalement, il arrive. Il a été placé dans le line-up par Maurice, notre cher Maurice, technicien. Donc, le segment tarde à venir. On est en train de vérifier la technique.
On peut commencer sans. De toute façon, c'était... ça vous mettait dans le bain, mais ce n'était pas très, très joyeux. Allons-y sans. Donc là, oui, aujourd'hui, moi, je me questionne sur est-ce que c'est la fin du ski alpin. Mm-hmm. Donc, l'extrait, en fait, a été un extrait de Christophe Aturion, qui est un extrait d'un balado de France Culture. C'est un expert, en fait, qui analyse et étudie l'évolution de la neige et de la montagne depuis 40 ans. Puis, il n'était pas très rassurant quant à l'avenir des stations de ski. Bon, là, c'était en Europe, donc c'est différent, mais... La saison du ski ici n'est pas terminée.
Non.
Hein, bon,
ça dépend. Oui, il y a eu un petit refroid, là, mais il n'y a pas si longtemps.
Je disais que théoriquement, c'était quand même plutôt en avril qu'on considérait que les saisons de ski se terminaient. Mais on a quand même cette activité qui permet aux passionnés de communier avec la nature l'hiver, hein, en dévalant des flancs de montagne dans un paysage féerique. Mais cette activité serait peut-être vouée à disparaître. C'est la question que se posent beaucoup, en tout cas, de professionnels de l'industrie qui sont directement concernés par le manque de neige, mais aussi beaucoup de spécialistes et de scientifiques qui étudient la question. Est-ce que toi, tu skis, Maude?
Dans les dernières années, c'était plus le ski de fond, mais j'ai longtemps fait du ski alpin. Okay. Donc oui, j'ai profité de cette beauté hivernale à demain entreprise.
OK, donc là, c'est quelque chose que tu as fait comme depuis jeune,
oui,
enfant?
Oui, j'ai commencé vers l'âge de 7-8 ans quand même à skier. Puis même là, cette année, j'ai même pas fait de ski de fond parce que les conditions ne le permettaient pas.
Même en ski de fond?
Oui, même en ski de fond.
OK, donc bon, tu vois de quoi je parle.
Oui, absolument.
Mais c'est vrai que bon, quand on ne skie pas, on est moins concerné. Mais c'est vrai que pour les skieurs, c'est quand même plus réel.
Oui.
Au Québec, on profite, c'est quand même 1000 km de pistes équipées avec près de 300 remontées mécaniques qui permettent d'accéder à ces domaines skiables. Malheureusement, nous avons de moins en moins de neige. Je ne vous apprends rien. Partout au Québec, les précipitations neigeuses ont été entre 30 et 50% de la moyenne, de la normale ces 30 dernières années. Ça, ce sont des chiffres selon Environnement et Changement Climatique Canada. Et depuis 1981, la couverture neigeuse a diminué de 5 à 10% par décennie, selon un rapport sur le climat publié en 2019. On va comparer un peu ailleurs, aux États-Unis, selon une récente étude également. L'industrie américaine du ski a perdu près de 5 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies, ce en raison des réchauffements climatiques. Donc on ne vient pas comme questionner autre chose, et ces réchauffements liés causés par l'homme. Puis la raréfaction des chutes de neige aussi. Outre-Atlantique, la France, ça va pas mieux.
Non.
39% du domaine skiable est couvert par de la neige artificielle en ce moment. Donc c'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
C'est énorme. Puis en 2007, c'était 19%. Donc c'est deux fois moins. Donc, c'est vraiment ça. C'est un rapport qui est sorti le mois dernier, un rapport de la Cour des comptes qui a vraiment analysé beaucoup de domaines, pas forcément que le ski, mais sur l'impact des changements climatiques. Et on dit que depuis les années 70, les relevés montrent que la couverture neigeuse des Alpes, donc en France, soit en France ou en Europe, diminue globalement de 5,6% par décennie. Puis il n'y a pas que la neige qui diminue, mais aussi l'épaisseur de la neige. Donc ça, on perd 8,4% par décennie. Parce que c'est bien beau d'avoir une couverture, mais si elle est trop fine,
oui,
ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas pour le ski, puis ça abîme la nature.
Oui, mais là, on imagine que la neige artificielle, c'est bien, mais c'est sûrement pas la solution pour compenser ces changements-là.
Hein. Oui, c'est ça. Là, comme on le voit, là, c'est un peu sur toutes les lèvres, la solution pour compenser ces changements. On parle du canon à neige un peu à tout va. Dans un article de National Geographic publié le mois dernier, on apprend que les canons à neige représenteraient 25% des émissions de carbone d'une station. Puis, ils sont quand même assez limités parce qu'on ne peut pas les utiliser dans n'importe quelle condition. Il faut que les températures soient quand même de 1 degré ou moins. Puis, si c'est trop humide, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quand même tout un contexte qui permet de l'utiliser ou pas.
Oui.
Les besoins en énergie, c'est pareil. C'est hyper énergivore. Il y a des analyses qui ont été faites dans la région en Suisse par l'université de Bâle. Puis, ils expliquent que si ça continue dans cette tendance, ça va vraiment considérablement poser des problèmes avec les communautés locales qui vont être privées d'eau, en fait. À un moment donné, il va falloir quand même se poser la question si on laisse skier les gens l'été, les touristes, mais que le reste de l'année, les gens sont en difficulté, ça va être problématique. Au Québec, l'Association des stations de ski du Québec chiffre le coût du renouvellement de ces canons à neige à 65 millions de dollars. Moi, j'imagine que c'est le renouvellement des existants, mais ça ne veut peut-être pas dire en ajouter des nouveaux. Puis l'année dernière, le ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, M. Fitzgibbon, avait déclaré dans une mêlée de presse que le gouvernement serait prêt à soutenir cet investissement. Évidemment, on veut soutenir l'économie liée à l'activité du ski, mais c'est quand même... Exactement. Puis c'est quand même un gros investissement.
Oui.
Si on prend l'exemple du Mont-Saint-Sauveur, on considère que c'est 600 millions de litres d'eau qui sont pompés annuellement.
Pour créer cette neige artificielle.
Et puis c'est pompé dans les lacs et les rivières, notamment la rivière du Nord. Si on prend aussi un autre exemple, c'est la station de ski de Bromont. C'est 1600 canons qui sont utilisés pour enneiger. Donc, on parle quand même de stations de ski qui sont grandes, mais c'est 1600 canons, c'est énorme. Puis, on imagine que c'est une tendance qui pourrait continuer de croître. Donc, ça consomme beaucoup d'eau. C'est beaucoup de consommation d'énergie. L'enneigement représenterait 44% des dépenses d'électricité d'une station. C'est devant l'enneigement, devant les remontées mécaniques. Donc, on voit que ça prend vraiment de la place. Puis, c'est en termes de dépenses, plus ça s'équivaut, ça suit en fait le pôle de dépenses de l'humain, en fait.
Oui.
Donc, beaucoup de,
beaucoup de questionnements autour de ça quand même. Et au-delà de la consommation énergétique que ça représente, est-ce que ça peut être une solution de long terme?
C'est ça, parce que c'est sûr que là, à court terme, c'est génial, hein, ça nous permet de quand même aller skier, mais il y a quand même un oui et un non. On va tenter d'écouter l'extrait, on y va.
Une station de ski, à son échelle, avec sa clientèle, avec ses installations, avec ses dépenses d'énergie pour faire venir les gens, avec ses dépenses d'énergie sur place, dans son fonctionnement, une station de ski, elle crée proportionnellement la quantité de réchauffement climatique qui la détruit.
Voilà, donc on a l'impression de profiter de la montagne et de la nature quand on va skier, mais on est pas mal en train de générer ce qu'il a détruit en équivalent. Donc ça, c'était Christophe Aturion qu'on devait entendre, qui était dans le balado de France Culture, puis qui, lui, parle en l'occurrence des stations alpines en Europe. Donc c'est quand même aussi des stations différentes. Donc la neige artificielle, qui est citée comme la solution pour les stations, et t'as questionné, c'est, en mon sens, manquer de vision que d'ignorer les signes évidents des changements climatiques qui font qu'empirer avec le temps. Et la plupart, le plus tard, on commence en fait à faire face à cette réalité. Le plus difficile, il sera de s'adapter à cette réalité. En France, le réchauffement climatique provoque, par exemple, la fonte du pergélisol. Mmh. Le pergélisol, c'est un ciment naturel qui maintient les glaciers. Oui. On en a au Québec, mais heureusement, c'est plus au nord. On en a surtout au Nunavut. On n'en a pas dans les stations de ski au sud du Québec, mais ça, par exemple, on estime que c'est, en Europe, c'est des milliers d'infrastructures, de remontées mécaniques, tout ça, qui sont construites sur ce sol qui, à un moment donné, ne va plus tenir.
Non, ça va juste s'effondrer.
Donc, c'est quand même des choses à prendre en compte. Il y a aussi des stratégies, enfin, en tout cas, un développement économique qui est vraiment la seule motivation. Au Québec, on a des investisseurs qui viennent d'Europe, qui par exemple, le nouveau directeur, je pense, c'est du Mont-Saint-Anne, oui. Lui, c'est un Suisse qui vient avec son expertise des montagnes alpines, tout ça. Puis il est en mode développons, unissons-nous, et allons de l'avant. Sauf qu'on parle à aucun moment de développement durable et comment on transite vers une nouvelle utilisation de la montagne, parce qu'à un moment donné, est-ce que
ça serait plus possible.
Ouais, exactement. Donc il y a quand même une croyance aussi au Québec qui dit que on serait épargné par le manque de neige par rapport à d'autres régions du monde. Bon, j'ai déjà entendu ça, j'ai pas réussi à trouver comment les personnes qui avaient dit ça, sur quoi elles se basaient. Puis on a malheureusement la preuve concrète aujourd'hui que c'est pas le cas.
Mais non, c'est ça. Et c'est quoi les pistes de solutions s'il y en a, justement?
Alors, les pistes de solutions aujourd'hui, ce dont les experts parlent, c'est la reconversion des montagnes, c'est-à-dire de transférer l'activité récréative et des loisirs des montagnes d'hiver vers l'été. Malheureusement, d'après les calculs et les estimations, on n'aura pas du tout la même création d'économie avec des randonnées d'été versus des skis de montagne. Puis ça empêche que ça remplace l'activité, mais sans remplacer l'activité économique, sans offrir de compensation pour l'activité physique qui est la pratique du ski alpin.
Oui.
Voilà, donc à suivre.
À suivre de près, effectivement. Et puis, on n'a pas le choix de s'adapter. Hein?
C'est ça, on n'a pas le choix de s'adapter, mais surtout, il faut quand même y réfléchir pour pas. Parce que si on continue à faire comme si ça n'arrivait pas, ça ne va pas fonctionner.
Ben non, ça ne va pas du tout, effectivement. Merci beaucoup, Maïté Bellemare.
Avec plaisir.
Pour cette chronique très éclairante et à se questionner aussi dans nos sports. On peut faire autre chose aussi, même si c'est décevant, même s'il y a un deuil à faire. On parlait
changement de
deuil avec Écomotion ce matin.
Le changement de comportement est long. Hein, oui. Ça prend des années, voire une décennie avant. Donc, plus tôt on s'y met, plus tôt on y arrivera.
Effectivement. Merci encore, Maïté. Et donc, c'est déjà la fin pour nous. La semaine prochaine, au menu, chronique avec Patrick Rondeau de la Fédération des travailleurs du Québec, travailleurs et travailleuses du Québec. Nous avons également une entrevue avec Anne Plourde, qui est autrice du livre qui sortira tout récemment, Santé Inc., 5 mythes et faillites du système de santé, chronique alimentation avec le chantier de l'économie sociale. Nous serons donc cette fois-ci avec Nathalie Collin, directrice générale des complices alimentaires. Et nous aurons la chronique d'Alexandre Escure pour les rencontres minutes de culture générale. Je rappelle que nous sommes en rediffusion tous les lundis à 8h. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde. Merci également à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Retrouvez-nous en rafale sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous!
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL1015.
Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL1015 Montréal.
Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui anime une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jason Paré au micro, en remplacement d'Alexandra Guélil. Vous écoutez Angle droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé.